8 mois de prison ferme, c'est la peine dont a écopé Yann B. du collectif Désarmons-les. Yann B. c'est une figure de la lutte contre les violences policières depuis de nombreuses années. Cette peine a été dénoncée dans un communiqué de presse par l'Observatoire Lillois des pratiques policières, l'OLPP. On discute de ça, de la loi sécurité globale et plus généralement du pouvoir de la police avec l'un des membres de cet observatoire citoyen.
Donc moi je m'appelle Stéphane, effectivement je fais partie de l'Observatoire Lillois des pratiques policières, qui est un observatoire citoyen qui s'est créé il y a à peu près un an et demi maintenant, avec le soutien de plusieurs organisations syndicales, je ne les cite pas toutes, mais il y a entre elles le syndicat des avocats de France, ainsi que le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Et l'objectif de cet observatoire, c'est... à travers notamment des méthodes qui sont issues de la recherche universitaire et des sciences sociales, d'avoir une approche systématique des pratiques policières, de les analyser dans le temps long et de faire des comparaisons des dispositifs policiers et des pratiques policières dans l'espace, dans le temps, comment est-ce que ça évolue, et aussi selon le type de manifestation, parce qu'il faut bien dire qu'on est surtout très focalisé sur les manifestations, sur la voie publique, étant donné que voilà, la liberté de manifester nous semble un peu compromise depuis quelques mois et quelques années, et c'est là-dessus qu'on a souhaité faire l'effort, sachant qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels des pratiques policières seraient analysées, mais voilà, on fait aussi les choses avec les moyens dont on dispose.
Concrètement, comment ça se passe? Vous allez dans les manifs et puis vous faites un certain nombre de relevés, combien il y a de policiers, quelles techniques ils utilisent, ce genre de choses?
Tout à fait. Donc on a une grille d'analyse que les observateurs se partagent, remplissent ensemble et confrontent, pour lesquels on confronte un peu nos points de vue et nos témoignages. Il y a une approche quantitative, voilà, on compte, et c'est toujours intéressant de voir comment le dispositif policier se dimensionne par rapport à ce qui s'imagine être l'antagonisme des manifestants. Et puis ensuite, on suit toute la manifestation. Depuis très peu de temps, on a des observateurs qui portent des chasubles, et donc qui sont identifiables comme observateurs, en plus de ceux qui ne le sont pas et qui sont, on va dire, parmi les manifestants pour observer de manière un peu plus discrète. Et avoir cette double approche est plutôt intéressante, parce que le fait d'être identifiable par des chasubles permet aussi de voir comment les forces de l'ordre se positionnent par rapport à la présence d'observateurs citoyens dans une manifestation sur la voie publique. Et donc après, on fait un rapport par manifestation, et la collection de ces rapports est analysée un peu sur le temps long pour qu'on fasse un rapport d'activité globale sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Là, l'Observatoire travaille sur son premier rapport d'activité qui devrait sortir là probablement au printemps, sachant qu'en plus de ce travail documentaire en chambre qui n'a pas forcément beaucoup de visibilité, on a une présence sur les réseaux sociaux, parce qu'une partie du débat sur les violences policières, il a lieu bien sûr sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, on ne s'interdit pas, comme on le fait là pour le cas de Yann B., de dénoncer par communiqué de presse soit des violences qu'on a constatées nous-mêmes, soit des situations qui nous semblent tout à fait exorbitante de ce qui est acceptable sur le sujet des violences policières.
Alors justement, Yann B. a été condamné à de la prison ferme. Yann B., c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà invité. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle, me semble-t-il, Désarmons-les. Est-ce que vous pouvez à nouveau nous le présenter, peut-être, Yann B.
Alors effectivement, Yann B. appartient au collectif Désarmons-les, qui est très important dans... le travail citoyen qui porte sur les violences d'État et sur les violences policières. D'abord, Désarmons-les, c'est un collectif qui a fait un travail essentiel et vraiment fondateur, un travail technique sur l'armement des forces de l'ordre. Et on peut consulter notamment leur site internet et plein de vidéos qui détaillent l'armement des forces de l'ordre, aussi pour montrer quelles tendances et quelles intentions ça démontre, l'emploi de telles armes. Et un autre travail qui nous semble particulièrement important, c'est un travail de redonner leur place aux victimes des violences d'État et des violences policières en particulier, parce qu'en fait, quand on est victime de violences policières dans le système institutionnel, judiciaire français aujourd'hui, en fait, on est deux fois victime. On est victime de la violence et puis on est victime de devoir la faire admettre, reconnaître, jugées. La place des victimes, c'est quelque chose à quoi, à l'Observatoire Livois, en tout cas, on est très attaché. Et effectivement, on avait reçu Yann B. Le 6 février dernier, dans le cadre d'un débat organisé sur les violences policières à Lille, avec aussi le sociologue Fabien Jobard et David Dufresne, journaliste bien connu, qui a fait un travail de recensement des violences policières, et notamment le film Un pays qui se tient sage, là, qui est sorti sur les écrans et qui est super.
Alors Yann B a été condamné pour violence sur force de l'ordre dans le cadre d'une manifestation. Pourquoi, selon vous, cette condamnation est grave ?
Alors, elle est grave parce que quand on voit le traitement en première instance, parce qu'il y a quand même une procédure en appel qui est en cours, et donc je pense qu'il faut aussi laisser la place à la justice de reconsidérer ce qui a été dit en première instance. Une condamnation de 8 mois ferme, quand on connaît le parcours militant de Yann B son engagement pour lutter contre les violences d'État, on a du mal à croire qu'il était traité comme un citoyen lambda. Et ça, je pense que c'est essentiel de le comprendre. Après, qui plus est, sur les faits qui lui sont reprochés, concrètement, il y a des images. Ces images tentent à montrer qu'il n'a fait que protéger une observatrice de la Ligue des droits de l'homme par un geste qui, il faut vraiment regarder les images, un geste très très anodin de repousser doucement le bouclier d'un membre des forces de l'ordre qui violentait l'observatrice. Donc en fait, il a eu un geste de protection qui était un geste que je pense à peu près n'importe qui ferait naturellement, et il se retrouve avec une condamnation ferme, enfin de 8 mois, qui est une condamnation vraiment très lourde. Son dossier, il est emblématique de deux choses. La première, c'est que dans beaucoup de ces dossiers, on n'a rien d'autre que la parole des policiers comme élément à charge. Et on l'a vu dans plusieurs affaires, et notamment l'affaire Michel Zecler, par exemple, que la parole de policière, en général, dans un certain nombre de cas, elle peut être vraiment battue en brèche par la réalité des images. Et donc derrière, on a tout le sujet de la bataille des images et du monopole que veut s'arroger l'État. Des images prises sur la voie publique. Clairement, c'est un sujet très sérieux pour l'exercice des libertés publiques que de voir l'État lutter contre les images citoyennes en général. Quoi. Voilà. Donc le procès de Yann B, il est vraiment emblématique de tous ces sujets-là. Il a vraiment été, pour beaucoup de collectifs citoyens, une source d'inspiration. Et donc, bien sûr, on est là pour le soutenir.
Alors, vous avez parlé du projet de loi sécurité globale. On peut imaginer que votre observatoire est vent debout contre ce projet de loi ?
Tout à fait. Alors, de manière générale, c'est encore une nouvelle loi sécuritaire. Elles vont toutes dans le même sens. Elles vont toutes dans le sens de la restriction des libertés. Et on voit bien que le droit et la pratique de l'État, c'est de tendre vers un système où vous et moi, on n'a plus forcément la liberté de manifester ou la liberté de prendre des images en tant qu'un droit individuel, mais on a un droit de manifester ou de prendre des images qui nous est octroyé ou non par l'État. Voilà. Et donc c'est quand même un vrai changement de perspective. Moi j'ai le souvenir net en manifestation c'était en décembre. Je prends des photos d'une interpellation et tout à coup il y a un policier qui s'approche de moi et qui me dit non mais là c'est bon, vous avez pris assez de photos. Et donc le sujet, c'est celui-là, c'est est-ce que moi j'ai la liberté de prendre des images en tant qu'une liberté individuelle, ou est-ce que j'ai une liberté qui est contingentée par les forces de l'ordre, par l'État, par le préfet, par qui vous voulez. Voilà. Donc j'en suis une explication avec le policier en disant que voilà, il n'existe pas à ma connaissance de quota d'images. Et le sujet de la loi sécurité globale, le sujet de l'empilement des lois sécuritaires, qui plus est avec les mesures liées à l'état d'urgence, de faire rentrer dans le droit commun des lois d'exception et d'un tout doucement de du rétrécissement de nos libertés publiques et puis finalement du rétrécissement des citoyens que nous sommes tous.
Vous avez parlé du droit de prendre des photos ou non. Ça me fait penser à une situation qui se passe dans notre région, hein, du côté de Calais, où certaines zones, lors d'interventions policières appelées mises à l'abri de migrants, donc là c'est une citation, des zones où les journalistes ne peuvent plus rentrer. Il y a des discussions devant les tribunaux aussi sur ces zones.
Ouais, bah, tout à fait. C'est le même sujet. L'action policière à l'égard des migrants, déjà, je pense qu'elle soulève une première question, qui est que il n'est pas interdit de penser que cette action à l'égard des migrants, elle a aucune utilité sociale. Et je pense que il y a probablement un travail à faire sur toutes les attributions de la police et sur toutes les missions qu'on confie à la police, sur ce qui a de la valeur et une utilité sociale et ce qui n'en a pas. Voilà. Et voilà, on n'a pas vraiment le souvenir d'avoir récemment pu délibérer et d'avoir récemment pu se dire collectivement, en tant que citoyen, par un système délibératif démocratique, est-ce qu'il est utile, de faire la chasse aux migrants, que ce soit à Calais ou dans les Pyrénées, etc. Et donc on a une action policière qui est contestée qui est documentée par des journalistes, par des citoyens, etc. Et donc évidemment, la question des images, elle se pose exactement comme en manifestation ou exactement comme pour l'affaire de Yann B, c'est que autant que faire se peut, l'État empêchera de prendre des images de l'action policière contre les migrants.
Dernière partie de notre entretien avec Stéphane de l'Observatoire Lillois des pratiques policières. On parle avec lui du contexte plus général dans lequel se déroule actuellement ce mouvement contre la loi sécurité globale. Et puis au moment où à Arras, le conseil municipal s'interroge sur l'armement de la police municipale, il est aussi question dans cet entretien du rapport police municipale-police nationale.
On a quand même le sujet des violences policières qui a un peu crevé l'écran. Je me souviens, au moment où l'Observatoire Lillois des pratiques policières s'est créé, c'était un sujet, bien sûr, c'était un sujet depuis de nombreuses années, mais c'était pas un sujet qui était au premier plan dans l'espace médiatique, alors qu'aujourd'hui, clairement, c'est le cas, aussi, bien sûr, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, et aussi grâce à l'action des collectifs des victimes qui ont réussi à mettre en visibilité un certain nombre de violences policières. Mais en fait, en dépit de ça, probablement que les collectifs citoyens sont en train de gagner un peu la bataille de l'opinion, mais il faut bien voir que sur le plan du droit, l'État est sourd et que on perd systématiquement. Quoi. On peut manifester, mais il semble que le pouvoir soit quand même vraiment sourd à l'idée même de la manifestation. Et que la bataille du droit, on la perd systématiquement. Donc là, franchement, on ne voit pas vraiment les choses s'améliorer. L'autre sujet étant qu'au sein des forces de l'ordre, même ceux qui avaient l'envie de faire évoluer les choses et la police dans le bon sens, sont plutôt en train aujourd'hui de quitter l'institution policière que de continuer à essayer d'œuvrer dans le bon sens. En fait, il y a un transfert de certaines prérogatives. Enfin, en tout cas, on augmente les prérogatives à la fois des polices municipales et puis aussi des sociétés de sécurité privée. Un des sujets étant le très faible niveau de recrutement dans toutes ces entités-là. Dans la police nationale, c'est relativement alarmant de s'imaginer que la police de demain, elle sera quand même largement constituée de gens premièrement déjà très sous-qualifiés à la base et de moins en moins formés pendant toute leur vie professionnelle. Grosso modo, la police municipale armée, c'est le sujet du développement de l'armement de la police. Sachant que la situation, elle est quand même particulière dans les communes où la police est étatisée. Je pense que c'est le cas à Arras, il y a une police d'État à Arras, moi je pense qu'on est en zone police. En France, on a une police nationale qui est probablement relativement hors de contrôle, c'est-à-dire dont les instances de contrôle, comme l'inspection générale de la police nationale, ne fonctionnent pas. En fait, c'est pas absolument une fatalité d'avoir une police étatisée. Et probablement que c'est une partie du sujet, voire un sujet de réforme éventuellement pour de prochaines échéances électorales, c'est que bah, la police nationale française, nous on a probablement pour beaucoup de citoyens, c'est quelque chose qui va de soi. Il faut savoir que quand on va aux États-Unis ou en Allemagne par exemple, la police elle n'est pas étatisée. Que bon, la police nationale française, elle date d'une loi de 1941, elle est signée du maréchal Pétain. Et voilà, je pense que c'est pas interdit de penser qu'elle porte les stigmates de sa création. Et il faut pas oublier que les élus de la nation, pendant toute la Troisième République, avant la Seconde Guerre mondiale, se sont battus contre la création d'une police nationale. Et aujourd'hui, bah voilà, cette police, on l'a sous les yeux et elle est probablement devenue trop puissante, à la fois en termes d'armement, en termes de prérogatives juridiques, et y compris technologiquement, à travers des outils de surveillance de masse, etc. Donc voilà, la persistance d'une institution qui est la police nationale, je pense que c'est probablement un vrai sujet politique pour l'avenir.
Stéphane de l'Observatoire Lillois des pratiques policières, un entretien réalisé par téléphone le 22 janvier dernier.